Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h, Mathieu Béliard.
Avec les grandes voix qui sont avec nous autour de la table ce soir, Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Mathieu,
comment
bonsoir
ça va,
tout
Catherine
le monde, mais très bien.
Tout va bien?
Mais oui.
Charles Villeneuve est avec nous également, bonsoir Charles.
Ça va très bien.
On en veut ou pas de Griezmann au PSG, Charles?
Écoute.
Entre nous.
Je pense, écoute Mathieu, sincèrement, c'est vraiment parler pour ne rien dire. Parce que il va toucher... Première année de son contrat avec Barça, 17 millions d'euros nets d'impôts. Deuxième année, 18 millions d'euros nets d'impôts. Troisième année, 19 millions d'euros nets d'impôts. Tu verras dans les jours qui viennent, son contrat sera révélé. Mais c'est toi qui l'auras su avant tout le monde.
Et tous les auditeurs d'Europe 1, je les inclus voilà. dans la
et,
confidence.
Et s'il participe à la victoire d'une Champions League, 2 millions d'euros de primes.
Eh ben c'est pas mal, on a le détail. Benjamin Muller.
Ah, on est loin de mon salaire.
C'est le moment de négocier.
Ne t'inquiète pas du mien aussi.
Pauvre Charles, Benjamin, on a chose.
Mon cher Benjamin, comme chaque vendredi, on fait le bilan avec vous de cette semaine du Grand Journal du Soir et cette semaine encore une actualité très riche.
Oui, riche mais pas toujours réjouissante. On retiendra tous cet appel de Patrick. C'était mardi à propos des deux soldats morts en héros. Patrick s'est présenté. Il est un ancien très haut gradé en charge des opérations spéciales de l'armée. Forcément donc très ému, Patrick, au téléphone.
Mon émotion, elle est celle de quelqu'un qui a voué sa vie au service de son pays, parce que nous avons perdu deux de nos frères, et c'est toujours très douloureux.
Voilà l'émotion donc de Patrick, que l'on remercie encore de nous avoir appelé. Cette semaine, on a aussi beaucoup parlé du procès des Balkany, notamment avec Salomé Legrand au tribunal pour Europe 1.
Dans cet océan d'argent liquide, a-t-il dit à Patrick Balkany qui le regardait fixement.
Non, fisquement, non, c'est bien ça. Ce n'est pas un lapsus à propos de Patrick Balkany, sur qui, Mathieu, vous avez un point de vue, ce bon vieux Patrick. Ne rigolez pas, parce que sur Patrick Balkany, vous avez un point de vue avisé.
Il a une figure gangsta, Patrick Balkany.
Mais oui, c'est vrai, là on est dans l'analyse, vous avez tellement raison.
La manière dont il a présenté cette affaire, on cherche à nuire.
Dis-leur, Patrick.
C'est un procès politique. Vous avez entendu le procureur.
Ah là, on est bien, ça colle. Catherine disait quelle voix, effectivement, quelle belle voix. Alors, il n'y a pas que du rap dans l'actu cette semaine, mais aussi cet incroyable nouveau bug de Parcoursup. Alors, je suis rassuré, parce que j'ai entendu la ministre Frédérique Vidal, il y a quoi, une demi-heure à peu près avec vous, Mathieu, dire qu'au moins... tous les élèves concernés par le bug ont été contactés par ces services.
En fait, nous, on a écrit à l'ensemble des candidats qui avaient fait des vœux dans les formations. Et certains de ces candidats avaient accepté d'autres vœux dans d'autres formations. Les mails sont partis sur l'ensemble des candidats qui sont inscrits dans ces 2% des formations.
Ah ben voilà, très bien, au moins ils sont tous au courant, se dit-on. Sauf que ça, c'était à 18h38. Et 5 minutes plus tard, toujours sur Europe 1, Alix, jeune étudiante de 18 ans, victime du bug, nous a appelé. Visiblement, la ministre, elle n'avait pas son mail.
Mais par contre, Parcoursup, aucun mail. Je ne sais absolument pas ce qui se passe.
Vous aviez bien eu un mail ce matin?
J'ai reçu aucun mail. Et même dans la messagerie Parcoursup, aucun mail concernant ça.
Eh bien, on est mal barré, on risque d'en reparler, j'ai l'impression. Heureusement, il y a eu aussi des sujets plus légers cette semaine. Par exemple, hier, sympa votre déloc, Mathieu.
Nous sommes installés ce soir jusqu'à 19h à la station F. La station F, vous avez peut-être déjà entendu ce nom, c'est cet incubateur de start-up.
Un incubateur de start-up, mais qu'est-ce que ça veut dire votre truc? Heureusement pour nous tous, Mathieu, vous savez parfaitement quand il le faut vulgariser.
Alors comme ça reste peut-être un peu jargonnant. Vous imaginez peut-être un baby-foot, un distributeur de sushis et des collaborateurs qui font la sieste. C'est pas un cliché, c'est assez vrai, c'est ainsi que ça se passe.
Oh, comme ça donne envie d'aller bosser. Oh là là, ça donne envie. D'ailleurs, vous, Mathieu, vous étiez vraiment à l'aise hier pour parler de nouvelles technologies, qui est votre vraie spécialité.
C'est vrai que c'est un cadre agréable.
Hein. Super agréable. Moi,
je suis incapable de connecter une imprimante à mon ordinateur.
Ah, mon pauvre. Alors, c'est pas grave, on retiendra ce témoignage d'une start-upeuse qui bosse à la station F. Elle explique en quoi c'est vraiment génial.
C'est génial d'avoir un bâtiment qui est ouvert 24/7, parce qu'on peut passer les nuits ici, on peut venir le week-end, on peut vraiment... de profiter de l'espace.
Oh, quel bonheur bosser 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça fait rêver, mais c'est pas pour moi. Allez, je vous laisse avec ce sujet si polémique que vous avez abordé tout à l'heure, Mathieu. Là, on sent que vous ne craignez aucun tabou, qu'il n'y a vraiment pas de sujet interdit. J'espère que les grandes voix vont oser en parler.
Non, il va y avoir polémique. Maintenant qu'on a tranché pain au chocolat et chocolatine, la
queue
question,
mulet,
est-ce que le queue de la queue de rat est un mulet? Je ne pense pas, non.
Si.
Bah non. Bon. Hashtag Europe hein, pour réagir, 17h39.
Et oui, la queue de rat est-elle un mulet? Ça, c'est un vrai débat.
On n'a pas eu un appel. Hein, Michel Président n'a pas eu un seul appel. Merci Benjamin Muller. Il est 19h30, vous êtes sur Europe 1.
Le débat avec les grandes voix dans quelques secondes. Catherine et Charles Villeneuve, à tout de suite.
Mathieu Béliard jusqu'à 20h et les grandes voix d'Europe 1, comme chaque vendredi soir, Catherine Ney et Charles Villeneuve.
Vous savez ce qu'on fait, je vais vous le dire, je vais être parfaitement transparent avec nos auditeurs. Pendant la pub, on parle de foot avec Charles et puis là, on va parler de politique avec Catherine et Charles, bien sûr. Ça va les grandes voix ?
Mais très
tout va bien,
oui.
Vous avez passé une agréable semaine ?
Oui.
Ça a commencé quand même par cet hommage qui était assez poignant et puis ça a continué évidemment avec les élections européennes, la déclaration de Merkel et puis ce dont on va parler maintenant.
Ben oui, mais précisément d'abord je voudrais vous demander sur cette déclaration de Merkel. Alors il y a eu un petit souci de traduction quand même, hein. Il faut faire attention, on a parlé de confrontation au début, est-ce qu'il faut plus parler de désaccord entre Paris et Berlin, entre Angela Merkel et Emmanuel Macron? Comment est-ce que vous l'avez interprété, vous, cette séquence, cette interview qu'a donnée la chancelière au Süddeutsche Zeitung, Catherine?
Mais moi je crois que non, mais des désaccords il y en a et je pense qu'avec vous savez, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il a été reçu par Madame Angela Merkel qui lui a dit au début de toute chose, il y a un charme. Bon, et là, c'est vrai qu'elle a été séduite par ce jeune président qui allait peut-être changer la relation, être peut-être plus innovant. Enfin, tout le monde le regardait un peu comme un... Oui, comme quelque chose de... comme une anomalie presque.
Au moins un ovni, oui.
Voilà, au moins un ovni. Et puis, elle était dans ses élections. Elle avait du mal à l'époque à trouver une majorité. Ça a pris plusieurs mois, elle en a changé. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, lui, voulant jouer en leader, tracer sa route, faisait des discours à la Sorbonne. Et puis, sans avoir de réponse de Madame Merkel, qui a trouvé qu'il allait peut-être un peu vite. Et lui, il a trouvé que Madame Merkel allait un peu trop lentement, disons qu'il y a eu des différences de temporalité. Bon, maintenant, on est à 8 jours des européennes, et pour Madame Merkel, eh bien, pour l'instant, il va y avoir un nouveau président de Commission européenne, il va y avoir beaucoup de changements, et tout va dépendre, évidemment, des résultats de cette élection, et on mesurera le poids de chacun au Parlement européen.
Charles ?
Moi, je pense que la réalité est différente. Mais nettement différente. Je pense que, évidemment, Macron est un homme d'action. Il est arrivé, il l'a bombardé de propositions. Celles qu'il a pu faire publiques, par exemple, l'exemple cité, la lettre, et puis aussi la Sorbonne, etc., par Catherine. Mais je pense que Madame Merkel ne s'est jamais entendue avec aucun président de la République. Aucun. Fondamentalement. Parce que elle est l'émanation même de l'ADN de l'Allemagne. L'ADN de l'Allemagne, c'est une Europe du commerce, c'est une Europe économique, ce n'est pas une Europe de puissance. La France, toute sa stratégie depuis le départ, depuis le général de Gaulle, c'est d'abord l'alliance, évidemment, qu'il a voulu profondément. Tout à l'heure, je citerai le 14 juin 1962, de Gaulle a fait une déclaration par rapport à notre principal adversaire dans le cadre de l'Europe, c'est-à-dire les États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis jouent à plein sur l'Allemagne. L'Allemagne est transie de trouille à l'heure actuelle par rapport à toutes les commandes qui sont annulées par la Chine sur les usines livrées clé en main, par rapport au fait que le président des États-Unis va taxer et menace de taxer toutes les voitures allemandes. Or, pour l'équilibre de son déficit extérieur ou de son commerce extérieur, c'est capital pour l'Allemagne. L'Allemagne a tout misé là-dessus. La France, pas du tout. La France, elle est dans une perspective de puissance. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous regardez bien, tout ce qui a été fait, toutes les grandes réalisations entre la France et l'Allemagne, les grandes réalisations, je dis bien EADS, le marché commun, l'euro, et même Arte, la chaîne culturelle France-Allemagne, qui est quand même une réussite, il faut le dire, eh bien, ça a été fait entre 90 et 2001. Et depuis, il n'y a plus rien d'important, de réel, plus rien. Aucun des monarques républicains français n'a finalement pu réaliser une grande entreprise, je dis au sens général, générique du terme, avec Madame Merkel, parce qu'elle n'est pas du tout dans ce trip-là. Elle veille à un équilibre de l'Allemagne, de son déficit extérieure, de son commerce extérieur, qui est une réussite formidable, puisqu'elle a 250 milliards d'euros de surplus, alors que nous, nous avons plus de 65 milliards de déficit, etc. Donc elle est parfaitement, et en plus, comme me le rappelait au moment où arrive Macron, qui est quand même un tourbillon, et c'est vrai, elle a essuyé un double échec. Non seulement l'ouverture aux frontières au moment de la crise migratoire en Europe, qu'on va lui reprocher et qu'elle va payer à travers les élections, mais l'échec des élections, évidemment. Et donc, partant de là, son souci n'est pas de répondre à la lettre aux propositions de Macron.
19h37. Restez bien sur Europe 1 et je voudrais vous demander, mes chères grandes voix, justement sur ce débat. Et alors, pour parler du rapport Macron-Merkel, ce que ça dit aussi de la place de la France dans le reste de l'Union européenne, de notre rôle à jouer, puisque je le rappelle, dans moins de 10 jours maintenant, nous votons. 19h38, vous restez bien sur Europe 1.
Jusqu'à 20h, Mathieu Béliard et les grandes voix d'Europe 1, Catherine Ney et Charles Villeneuve.
Alors Catherine et Charles, ce petit incident, je fais attention avec les mots parce qu'il y a déjà eu une petite erreur de traduction dans le cours de la semaine, il ne faudrait pas rendre les choses plus graves qu'elles ne sont, mais ce petit accrochage, dirons-nous, dans le Süddeutsche Zeitung entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui du véritable leadership français sur la scène européenne ?
Mais moi je crois que Angela Merkel, elle tient bien sûr à la relation franco-allemande puisqu'elle en fait partie, c'est le couple franco-allemand, donc ce qui la met quand même sur un piédestal en Europe, mais à la fois elle ne ménage pas Paris dans les faits parce que finalement elle en a marre, elle est lassée de tous les discours rhétoriques de tous les présidents français, d'attendre le redressement économique de la France qui ne vient pas. 2 ans après son élection, Emmanuel Macron n'a toujours pas comblé l'écart économique entre les deux pays, on en est loin d'ailleurs et surtout en matière d'exportation, et aussi il a renoncé à court terme à réduire le déficit. Donc pour Berlin c'est une erreur macroéconomique et elle trouve que les Français sont indécrottables parce qu'ils ne bougent pas, c'est toujours la même chose. Alors eux, évidemment, les Français disent, mais vous êtes tellement accrochés à votre équilibre budgétaire. Regardez, nous, on a quand même un peu de croissance et tout ça. Donc, dans le fond, les politiques allemandes et françaises, la mentalité allemande n'est pas du tout la mentalité française. Les Allemands, pour rien au monde, c'était injurieux de pas... Enfin, je veux dire, pour eux, c'est une honte de ne pas travailler. On accepte des petits boulots parce qu'il ne faut pas travailler. Les Français, je veux dire, ils préfèrent quelquefois ne pas... Enfin, je ne veux pas dire, quelquefois, ils ont du mal à chercher du travail, mais ils sont pas honteux si on leur donne une subvention. Tandis que les Allemands, ils sont presque... Voilà, c'est... Donc, c'est un rapport...
Il y a vraiment une philosophie différente.
Il y a une philosophie différente.
Le rapport à l'État,
et puis, une philosophie différente. Et puis, vous voyez, quand Schröder a imposé son programme, il a mis fin à l'État-providence en Allemagne. Ça a été très dur. Les gens se sont appauvris. Ça a été très, très dur. Il n'y a pas eu de gilets jaunes. Les gilets jaunes ont subi. La classe moyenne a vraiment morflé en Allemagne. Bon, alors c'est peut-être en France, vaut mieux réagir et se faire entendre. Mais donc, ce sont deux pays, au fond, qui n'ont rien à voir. C'est deux mentalités totalement différentes. Donc, c'est très difficile de bâtir des choses ensemble.
De bâtir déjà un vrai couple, et puis de convaincre le reste de la scène européenne.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que je rappellerai quand même que la France a des charges considérables que n'a pas l'Allemagne. Ne serait-ce que la force nucléaire stratégique, ne serait-ce que finalement tous les accords de défense que la France a pu passer en Afrique. Là, prenons l'affaire du Sahel, justement, le plan Barkhane. Les Allemands ont envoyé un bataillon de soldats allemands, mais il ne sert strictement à rien. Vous discutez avec tous les officiers, aussi bien américains, britanniques, etc., qui font partie de l'appui drone, c'est-à-dire du renseignement aérien, etc. Mais où sont les Allemands ? Vous savez, dans les stades de foot, on dit qui ne saute pas n'est pas lyonnais ou n'est pas parisien, etc. Et bien là, c'est finalement qui ne participe pas, en tout cas, n'est pas allemand. Bon, et cette charge, elle est considérable. Et les Allemands n'y participent que du bout des lèvres. Alors c'est vrai que ça handicape le budget. Je ne fais pas un plaidoyer, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Catherine sur le fait que les Français, quand même sur le plan budgétaire, c'est un classique auquel ils ne renonceront jamais.
Il faut quand même rappeler que sur cette question-là, purement budgétaire, des déficits et ces points d'accrochage qu'on peut avoir à la fois avec l'Europe et à la fois avec l'Allemagne, oui, on est quand même le cancre qui donne des leçons.
La France qui avait fixé le fameux 3%.
3%. C'est nous qui l'avons inventé.
Mais ça ne se dit pas et ça ne marche pas avec Mme Merkel, qui est la seule à dire ça. Parce que je rappellerai quand même, De Gaulle, Adenauer, Giscard, Helmut Schmidt, Mitterrand, Kohl, savaient, eux, jusqu'où ne pas aller trop loin. Là, elle y va pourquoi ? Non seulement elle est en difficulté, mais par-dessus le marché, elle dit qu'avec Macron, c'est un match de catch. Bon, c'est vrai que c'est un match de catch, souvent, parce que c'est pas seulement en Allemagne, c'est pas dans le couple franco-allemand, c'est même ici, en France, c'est un match de catch avec Macron. Quand on va voir Macron, c'est un type d'action, d'ailleurs, c'est toi-même qui disais au cours de la spéciale sur les forces spéciales, justement, mardi matin, avec Wendy Bouchard, que Macron, c'est l'action. C'est toujours l'action. Et c'est vrai que c'est l'action. Catherine. Alors, elle doit être étourdie par cette espèce d'ouragan, quoi.
Oui. Non, mais ce qui va être intéressant dans ces élections européennes qui arrivent, c'est de voir combien d'élus a Emmanuel Macron. D'abord, et où va-t-il, dans quel groupe Parti. Va-t-il siéger ? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il va se passer quelque chose qui était vraiment une nouveauté, c'est que jusqu'ici, le Parti Socialiste et le Parti PPE, le parti de droite, avaient à eux deux la majorité absolue. Là, on sait que ça va être une explosion.
Ça va exploser.
Que ça va être, bon, peut-être que le Parti Socialiste et le PPE resteront des partis très importants, mais qu'il va falloir, c'est une élection à la proportionnelle, et qu'il va y avoir de nouveaux compromis, des nouveaux, voilà,
Il y aura de nouveaux rapports de force.
Il y aura de nouveaux rapports de force.
J'attire l'attention juste de nos auditeurs sur l'émission que nous organiserons lundi, vous le dis comme ça, il y aura des informations sur des projections qui sont réalisées justement sur ce futur Parlement européen. Moi, j'étais très surpris de découvrir à quel point nos auditeurs connaissent la politique européenne. Et là, c'est une vraie tectonique des plaques qui se joue à Strasbourg.
Mais pourquoi ne vont-ils pas voter en nombre alors ? Pourquoi on en est entre 40 et 45% de participation ?
Je ne sais pas.
Parce que ce sont peut-être des cracks, mais qu'ils aillent voter. Parce que l'enjeu est important. Et c'est
donc
vrai.
Ce qui va être très intéressant, c'est là où on va mesurer, en tous les cas au Parlement européen, le poids d'Emmanuel Macron, en tous les cas de ceux qui se réclament de lui, c'est-à-dire la liste Renaissance. Et on verra si... Parce qu'il y a beaucoup de postes à avoir au Parlement européen. Il y a les présidences de commission qui sont importantes, mais il y a aussi tous les postes de coordination et qui sont aussi très importants. Et donc là, on va voir si... ce qu'espère Emmanuel Macron, c'est refaire un peu au niveau européen ce qu'il a fait en France, c'est un peu écarter le nouveau monde pour recréer une force avec laquelle on doit composer, qui joue un peu les faiseurs de rois. Quel rôle va-t-il jouer pour l'élection du président de la Commission européenne ? Alors, on sait que Mme Merkel soutient Manfred Weber, qui est un CSU. Et elle tient absolument à ce qu'il soit élu parce qu'au plan intérieur, il préserve son alliance,
son équilibre
intérieur. Donc, jusqu'ici, Emmanuel Macron a dit qu'il n'en voulait pas.
19h46, vous restez bien sur Europe 1, nous avons mis un pied dans les européennes plus précisément et nous allons parler de notre campagne. Tiens, aussi avec une petite phrase d'Edouard Philippe, la droite Trocadéro se paye de mots. Je sais que ça n'a pas forcément été apprécié du côté des Républicains, nous parlerons des Républicains, du RN, de La République En Marche, à tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et les grandes voix d'Europe 1, Catherine Ney et Charles Villeneuve.
Ce soir, Nathalie Loiseau et François Bayrou sont en meeting à Pau. Est-ce que vous voulez bien commencer peut-être par La République En Marche sur cette page européenne, cette campagne ? Est-ce qu'elle va démarrer ? On est à 9 jours du scrutin. Charles ?
Moi, je dirais, si vous voulez, là, on vient de passer en revue les relations entre la France et l'Allemagne. Et moi, je disais en tout cas que ça patine. Et je pense que Catherine est d'accord là-dessus, que ça patine. Mais là, entre La République En Marche et son ambition affichée à travers sa leader, Nathalie Loiseau, ça patine sec. Hein, à tel point que le président de la République s'est jeté dans la bataille. Il va même faire sans doute un meeting cette semaine. Il a fait fabriquer une affiche à 60 000 exemplaires où il est tout seul sur l'affiche. Et puis, comme par hasard, il a fait sortir le Premier ministre qui commence à secouer un peu la droite Trocadéro, c'est-à-dire la droite figée dans ce qu'elle a été.
Ils n'ont pas aimé chez les Républicains la droite Trocadéro.
Non, parce qu'il a besoin des voix, non pas de la droite Trocadéro, mais de la droite tout court, la droite classique des Républicains. Macron, il a déjà eu un transfert avec un certain nombre de ministres. Alors, certains les appellent la droite Mercato, on peut les appeler aussi la droite collabo, etc., etc. Et donc, il a besoin de ces voix pour essayer justement de passer, parce que les derniers sondages nous montrent, encore que les derniers sondages, c'est un instantané de la situation, nous montrent que c'est plutôt le Rassemblement national, or le président de la République a en quelque sorte lancé son référendum, c'est-à-dire pour ou contre Macron. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un effet inverse chez un certain nombre d'électeurs républicains qui iront peut-être au secours même du Rassemblement national pour voter contre Macron, ou peut-être le contraire.
N'oublie pas que c'est quand même un tour. Je pense que les élus républicains, ils voteront pour la liste républicaine. Enfin, en principe, les électeurs voteront pour la liste de François-Xavier Bellamy, mais il se passe quand même un phénomène que me disent tous ceux qui font campagne pour le parti, avec tout le monde, tous ceux qui viennent aux réunions. Et il y a du monde de réunions. D'ailleurs, Arnaud Danjean, qui est le numéro 2 de la liste, disait par exemple...
Pour la liste républicaine.
Il disait qu'hier soir, à Chalon-sur-Saône, il y avait 900 personnes, alors que 8 jours avant, Mme Loiseau était venue, il y avait 150 personnes, pas plus. Et pas là, plus, on sent que François-Xavier Bellamy séduit les gens, parce qu'il a d'abord il a un esprit très ductile, une fluidité dans le discours. Il ne renonce pas à la complexité, mais ce qu'il dit, il fait comprendre aux gens. Ils ont sûrement l'impression de mieux comprendre les ressorts de cette élection. Donc, c'est plutôt une réussite de la part de ce jeune homme qui ressemble encore à un jeune homme. Mais le problème, c'est que tous ceux qui viennent à ces réunions disent on veut bien voter pour Bellamy, mais on ne veut plus de Wauquiez. Or, aujourd'hui, c'est beaucoup de candidats qui sont sur la liste de François-Xavier Bellamy et aussi des membres du Parti des Républicains reconnaissent que le plafond de verre est atteint parce que Wauquiez est un repoussoir. Voilà,
donc on bloque à 15 à cause de Wauquiez.
Voilà, c'est ce
mais c'est intéressant parce que quand même on parle de l'effet de la petite remontée, de l'effet François-Xavier Bellamy depuis un moment, mais on ne le donne jamais vraiment au-dessus de 15. François Fillon, avec tout ce qu'il a connu,
et même,
était avant.
Et même un blocage à 14 là maintenant.
Oui.
Il y a quand même, et d'ailleurs Guillaume Tabar, l'éditorialiste du Figaro, le faisait remarquer ce matin, il a quand même d'ores et déjà, enfin on verra quand même le résultat, deux acquis quand même. L'unité, d'ailleurs mercredi dernier à la porte Maillot, ça peut être la droite Maillot aussi, il y avait Valérie Pécresse qui il y a un an à Menton traversait la salle de la réunion de la Convention des Républicains, était sifflée, huée. Et mercredi, elle était applaudie, ovationnée, jusqu'à ce qu'elle arrive justement sur l'estrade. Quoi.
Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que tous les maires qui étaient de droite, enfin républicains, qui étaient macro-compatibles, comme Christian Estrosi, Boudinque à Toulouse ou le Béchu à Angers, eh bien on se disait...
On rejoint le parti, oui.
On rejoint
Ils
sont rentrés dans l'ange, parti républicain. Donc il y a une forme d'unité. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est comme vous avez remarqué, Nicolas Sarkozy... pour l'instant, ne dit rien, ne dit pas qu'il le soutient. Mais justement parce qu'il y a le problème Wauquiez et que certains disent, il ne veut pas...
Je ne sais pas s'il va se prononcer. Pareil, Royal, bon, je ne sais pas si ça fait encore bouger beaucoup de voix, mais...
Elle n'a pas dit qu'elle
soutenait. Elle ne l'a pas dit.
Juste pour finir sur les Républicains, dans la salle de mercredi, donc porte-maillot, il y avait beaucoup de maires centristes, à tel point que le président du Sénat, d'ailleurs, s'est levé et est allé tous les saluer. C'est un témoignage, hein. j'étais pas au meeting. C'est un témoignage et j'ai lu ça dans les journaux. Mais ce qui est intéressant, justement, pour en revenir à La République En Marche et celui qui l'incarne le mieux et le plus visible en tout cas, c'est le président de la République. Or, qu'est-ce qu'il fait dans les meetings qui le juge important? Il envoie 3 chevaux légers, vous savez comment on le faisait dans les batailles napoléoniennes, on les envoyait pour emporter la décision au dernier moment. Il envoie, par exemple, à Strasbourg, qui est une région plutôt centriste.
Oui.
Il envoie qui ? Raffarin. Pas du tout un homme de la liste, justement, de Nathalie Loiseau, de La République En Marche. Qui il envoie quand il y a une résonance, une sensibilité écolo ? Cohn-Bendit. Qui fait pas partie de la liste non plus.
Non.
Bon. Et puis il a d'autres larrons. Et puis quand l'enjeu est important, quand il faut expliquer que l'enjeu des européennes, notamment pour la liste de La République En Marche et l'influence de la France est importante, qui l'envoie? François Bayrou. Donc où
le
sont
les fidèles, François?
Non, mais où sont les troupes, quoi? Où sont ces hommes en réalité? Parce que c'est pas...
Où sont les troupes? Et c'est pour ça qu'il va monter en ligne lui-même dans la dernière semaine.
Vous verrez ses affiches. C'était une information d'Europe 1 en début de semaine. Ces affiches qui seront
Il monte en ligne parce que Nicolas Sarkozy, ça lui avait plutôt bien réussi, parce que
en
2009, il avait fait presque 29% des voix. Il était arrivé en tête. Il avait fait un grand meeting et ses adversaires étaient le Parti socialiste qui avait fait 10 points de moins. Donc il s'inspire de l'attitude de Nicolas Sarkozy. Mais Nicolas Sarkozy avait fait ce score qui était assez impressionnant, mais c'était 6 mois après avoir réussi quand même, tout le monde s'est accordé pour le dire, sa présidence européenne du deuxième semestre de l'année 2008.
Et surtout avoir presque résolu la fameuse crise financière de 2008.
Sûr. La boucle est bouclée. On en revient au couple franco-allemand, hein, d'une certaine manière, ceux qui se souviennent de cette période-là qui était essentielle, évidemment, l'auront compris. Merci à vous deux. Catherine Ney, merci beaucoup.
Merci.
Charles Villeneuve, je ne sais pas si je vous vois la semaine prochaine, je ne sais plus, je n'ai pas le programme en tête. En tout cas, les grandes voix tous les vendredis soirs, vous le savez, de 19h20
à 20h. Mais toi, tu es là.
Je serai là vendredi, d'accord. C'est promis. Évidemment, dernier débat des grandes voix avant le scrutin des européennes. Europe 1.